sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Six années qui ont changé le monde, 1985-1991, la chute de l'Empire soviétique. C'est le titre du dernier ouvrage d'Hélène Carrère-Dancos que Franck Ferrand reçoit cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour à tous. Madame Carrère-Dancos est le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Nous sommes très honorés de sa présence rue François 1er. Elle est aussi l'une des meilleures analystes de l'Union soviétique et d'un effondrement qu'elle a vécu aux premières loges. Vous imaginez bien que son avis sur la question est fondamental.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julien sur les origines de l'ascenseur. Et donc, Franck ?
Quelque chose me dit que nous allons nous rendre donc au château de Versailles.
Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
C'est un des souvenirs forts et même poignants de mon existence. Pardon de raconter mes propres souvenirs à l'antenne, mais je me rappelle ce jour extraordinaire où l'on a vu les couleurs russes, le blanc, le rouge, le bleu, apparaître enfin au grand jour, être hissé sur la coupole du Kremlin. C'était un moment tout à fait inouï. Nous étions tous figés devant nos téléviseurs. Et avec une véritable inquiétude à l'époque, on se disait « mais est-ce possible et est-ce que ça va durer ?» Il s'agit sans doute d'un des événements les plus importants de l'histoire contemporaine, cet effondrement d'une des deux superpuissances du XXe siècle, la chute de cet empire soviétique longtemps regardé comme indestructible, on pourrait dire une mort assez rapide, puisqu'elle aura demandé moins de 6 années, de 1985 à 1991. Or, et c'est ce qui a motivé Madame Carrère-Dancos à écrire cet ouvrage sur les 6 années qui ont changé le monde, les grands médias, et derrière eux, disons-le, les opinions publiques du monde occidental, paraissent avoir fait assez peu de cas de cet événement tellement majeur et tellement récent. Déjà, à l'époque où tout s'est décidé, c'est-à-dire au printemps 1985, il semble bien que la plupart des observateurs aient été pris de court. Nous sommes le 11 mars 85. Et là, on peut dire que c'est un coup de tonnerre tout à fait extraordinaire. La population soviétique, dans un premier temps, la population soviétique apprend, surprise, mais disons-le sans doute assez circonspecte, car elle est lassée, cette population, par tant et tant de changements internes qui jamais n'ont abouti à grand-chose de concret, elle apprend une nouvelle tout de même peu banale, en effet. Après une kyrielle de dirigeants plus ou moins Kakoshim, les Brejnev, les Andropov, Tchernenko, etc., le nouveau chef de l'Empire soviétique, avec le titre de secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, du PCUS, est un homme jeune, disons-le, presque un gamin pour le régime, puisque ce Mikhail Gorbatchev a 54 ans seulement. En soi, on peut dire que cette nomination est une petite révolution. Or, non seulement le nouveau secrétaire général n'est pas du tout sénile, mais il apparaît d'entrée de jeu comme un homme tout à fait vigoureux et qui insiste sur cet aspect de sa personnalité. Il en joue clairement. Regard très ferme, sourire facile, démarche volontiers sportive. Je vous dis, un vrai gamin. Signe distinctif naturel, il porte au front un angiome, une marque de naissance qui va évidemment faciliter son adoption par l'opinion publique et qui va faire peut-être, disons-le, une part de son succès dans les médias occidentaux qui s'attardent davantage à ce petit détail physique qu'à ce que, au moral, l'homme peut présenter de singulier. Et loin de rester enfermé, disons, comme les espèces de momies qui l'ont précédé dans les ors du Kremlin, le nouveau patron de l'Empire soviétique inaugure dans les deux mois qui suivent sa prise de pouvoir, une série de tournées sur le terrain. On le voit se déplacer, ce qui était tout à fait inusuel, c'est le moins qu'on puisse dire. À l'époque, on le voit effectuer des voyages à la rencontre des soviétiques de la rue, si je puis dire. Tout de même, ces gens-là sont sélectionnés par le parti, je vous rassure. Mais enfin, il semble, ce nouveau secrétaire général, à l'écoute de tous les problèmes du quotidien. On peut vous dire que dans le milieu des années 1980, les problèmes du quotidien pour les soviétiques sont légion, ils sont innombrables, ils font partie intégrante d'une vie souvent très rude. Je vous ai parlé d'une petite révolution, on pourrait presque se demander si ça n'est pas une grande révolution qui, dans ce milieu de la décennie 80, s'est mise en marche. Mais qui est donc ce Gorbatchev que la presse occidentale populaire, enthousiaste, ne va pas tarder à surnommer Gorbi ? Eh bien, Gorbi est né dans le petit village de Privolnoïe, on est au sud de la Russie, presque au pied du Caucase. Son père conduisait des machines agricoles et lui-même, dès l'âge de 15 ans, avait suivi la même voie. Je vais y revenir dans un instant parce que toute cette formation et cette jeunesse ont joué un rôle essentiel dans la prise de conscience d'un certain nombre de problèmes de la part du jeune Mikhail. C'est en tout cas ce que je viens de vous dire, ce que nous dit la biographie officielle. Parce qu'en vérité, parallèlement, le jeune Mikhail a suivi un cursus scolaire et universitaire tout à fait brillant. Il entre à 19 ans à la faculté de droit de Moscou, paraît tout de même de l'ordre du drapeau rouge gagné aux commandes de sa moissonneuse batteuse. Vous m'avez compris, on est bien en présence d'un jeune soviétique modèle, à la mode stalinienne, à la fois prolétaire et méritant. À la fac de droit, la plupart de ses camarades, si j'ose ainsi m'exprimer, la plupart des copains de Mikhail s'orientent vers la très prestigieuse et très redoutable carrière de la procuratura, autant dire qu'ils s'apprêtent à donner une coloration juridique aux oukases du petit père Staline. Ce n'est pas le choix de Gorbatchev, qui lui préfère épouser très tôt la carrière d'apparatchik, c'est-à-dire de cadre du parti. En 55, on le retrouve à Stavropol, dans sa région natale, on est à 1500 km au sud de Moscou, à Stavropol où il s'occupe un temps des komsomols, c'est-à-dire des jeunesses communistes, avant de faire son chemin à travers les comités locaux du parti. À 39 ans, le voilà premier secrétaire du comité de Stavropol, ça veut dire tout de même 2,5 millions de personnes qui se trouvent de fait sous son autorité, même de droit sous son autorité. En 1970, et donc là, nous sommes maintenant à la grande époque brejnevienne, on va parler tout à l'heure de cette première révolution du temps de Khrouchtchev, qui a joué un rôle important dans sa carrière, mais là en 70, c'est déjà Brejnev, il est devenu un personnage important du régime, même si c'est encore à un échelon local. Ce qu'il y a de bien dans cette région que tient maintenant le jeune Gorbatchev, c'est qu'elle abrite plusieurs stations thermales prestigieuses où les gérontes de Moscou ont l'habitude de venir soigner leurs petites maladies chroniques, et les grandes aussi du reste, à commencer par deux hommes qui vont donner un coup d'accélérateur à la carrière de notre apparatchik modèle, Yuri Andropov, qui à l'époque est carrément le patron du KGB, et l'idéologue Mikhail Souslov, qui est si bien introduit au Kremlin qu'on l'a surnommé le faiseur de tsar. De tsar rouge, ai-je besoin de le préciser ?
Un extrait de la bande originale du film Goodbye Lénine, sorti en 2003, composé par Yann Tiersen sur Europe 1. Nous parlons cet après-midi de la chute de l'Empire soviétique. Et Franck Ferrand, vous évoquiez il y a quelques minutes un personnage important, celui de Gorbatchev.
Voilà donc Mikhail Gorbatchev propulsé à Moscou, parachuté au secrétariat du comité central, puis catapulté, j'emploie les termes que les journalistes utilisent dans ce genre de carrière express, dans le sein des seins de l'Empire communiste soviétique, c'est-à-dire le Politburo. Qui pourrait deviner, à l'époque, que cet élément modèle, discipliné, discret, parfaitement zélé, que ce communiste modèle cache un réformateur radical du système, si radical, du reste, qu'il finira par le tuer. qui est bien une dirigeante politique occidentale, paradoxalement, farouchement anticommuniste et même à la tête de la révolution néolibérale anglo-saxonne, le premier ministre britannique Margaret Thatcher, qui sans doute de tous les dirigeants occidentaux aura été celle qui aura le plus tôt perçu la différence de Gorbatchev. Lors de sa visite officielle à Londres en décembre 1984, Gorbatchev impressionne énormément Madame Thatcher qui tout de suite prend la mesure du personnage et se jure de tout faire pour lui faciliter la tâche. Et elle le fera bien entendu en étroite liaison avec son allié américain. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Madame Carrère-Dancos. Il se trouve que trois mois plus tard, en mars 1985, donc, Gorbatchev est nommé secrétaire général du PCUS. Le voilà à la tête de l'Empire. Cet homme qui était né, encore une fois, à une période très récente. Il était né en 1931. C'est important d'en prendre conscience parce que ça veut dire qu'il a grandi dans une Russie déjà entièrement soviétisée, contrairement à la plupart des grands chefs soviétiques de l'époque qui étaient nés soit avant, soit pendant la Révolution. Lui était vraiment né dans la Russie de Staline. Il était né, qui plus est, vous l'aurez compris, dans une Russie profonde, une terre de paysans, à la campagne. Pendant toute son adolescence, il a pu voir ce qu'était une Russie aux abois aussi, une Russie détruite. On se demande toujours comment il se fait que les jeunes soviétiques de cette époque-là aient pu être staliniens et communistes. Il faut se remettre dans l'époque, dans cette période dure, période sommaire, j'ai presque envie de dire tout simplement période policière. En 1945, dites-vous que Mikhail Gorbatchev n'a que 14 ans. Or, on oublie volontiers qu'après la guerre, tous ces adolescents n'avaient qu'une seule envie, reconstruire leur pays. Il n'y avait pas d'autre formule pour s'engager dans cette reconstruction qu'entrer aux jeunesses communistes, au parti communiste par la suite. C'était la seule organisation, évidemment, qui exista alors. Le fait est par ailleurs que Gorbatchev appartient à une famille déchirée. Comme beaucoup de familles soviétiques, il y avait en son sein des gens qui soutenaient le régime communiste, ça c'est incontestable, mais il y en avait d'autres qui avaient été victimes de ce régime terrible. D'où la multiplication de tabous qu'on énonçait à mi-voix, d'où la multiplication de secrets de famille. On ne parlait pas de ces choses-là. Par exemple, il a fallu bien du temps pour que Mikhail et Raïssa, son épouse, se rendent compte que chacun dans sa famille, ils avaient un grand-père qui avait été victime du communiste. Il faut quand même dire que Raïssa avait perdu son grand-père. Du reste, c'est parce que son père était du côté communiste et directeur du kolkhoz local que Mikhail dira toute sa vie qu'il a été, qu'il est, qu'il restera communiste. Il demeure jusqu'au bout fidèle à cette partie de sa famille qui s'est engagée contre les koulaks, vous savez, contre ces paysans riches en quelque sorte, sauf qu'il avait du côté maternel un grand-père qui lui-même était koulak. Vous voyez la somme, voyez le poids évidemment d'un passé pas toujours exprimé dans toutes ces familles qui sont intimement déchirées. Alors, pourquoi Mikhail Gorbatchev a-t-il entrepris des études de droit? Au fond, il aurait bien aimé être ingénieur. À cette époque-là, en Union soviétique, tout le monde voulait devenir ingénieur. C'était la voie royale, si j'ose dire, pour un régime communiste. Mais Gorbatchev n'est pas vraiment un élément d'élite selon les critères du régime. Il arrive de sa province, il n'a pas été jugé suffisamment bon pour faire des études de physique, d'où cette fac de droit dont je vous parlais. Alors, quand on parle de droit, entendons-nous. Nous sommes encore à l'époque en pleine dictature stalinienne, même si c'est la toute fin de cette époque. Il n'y a qu'un seul droit, c'est celui du Parti communiste. Il n'y a aucun droit contradictoire, bien entendu. Pas d'avocat en tant que tel. Mikhail se retrouve plongé dans des études qui, en réalité, mènent à la profession de fonctionnaire du parti, voire même, pour une grande partie de ceux qui vont bien réussir, d'agent du KGB. Un personnage très important survient sur ces entrefaites. J'ai eu l'occasion de le nommer déjà. C'est évidemment Raïssa. Je crois qu'on peut parler, à propos de ces deux êtres, d'un amour fusionnel, inconditionnel. Ces deux jeunes gens sont faits pour s'entendre, ils vont s'aimer jusqu'au bout. Et sans doute, peut-on dire que le vrai grand drame intime de Mikhail Gorbatchev, c'est la mort de Raïssa. Sans doute bien plus, somme toute, que la fin par sa faute de l'Union soviétique. La jeune femme aide énormément cet apparatchik en herbe, si je puis dire. Elle est très méthodique, elle lit beaucoup, elle connaît tous les rouages du parti et elle va guider Mikhail Gorbatchev. Elle va lui faire faire sans doute un certain nombre de choses qui sont un peu interdites à l'époque, mais elle dose les choses, elle le conduit d'une certaine manière et il affirme, il le dit encore, qu'il lui devra beaucoup. Ce qu'il faut rappeler et souligner, c'est que pendant 30 ans, Mikhail Gorbatchev va faire une carrière politique modèle, je vous l'ai dit, hein, la carrière d'un communiste parfait, si je puis dire. À aucun moment, il n'aura une phrase, il n'aura un mot, un geste de contestation ou de dissidence. C'est très important de le dire. Il a fait toute sa carrière comme un communiste exemplaire, comme un apparatchik sans tache. Et évidemment, au moment où il va se retrouver à la tête du parti et bientôt à la tête du pays et de l'Empire, on sera très surpris des grandes décisions qu'il va prendre.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Et cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, nous nous intéressons à la chute de l'Empire soviétique.
Ce qu'ont tôt remarqué les camarades, là je crois que je peux employer le terme, de Mikhail Gorbatchev, c'est qu'il parlait mieux que les autres. D'abord, il est très agréable de contact, de personnalité. Il est très volontaire. Il ne faudrait surtout pas imaginer qu'on a affaire à un homme faible. C'est même naturellement un meneur d'hommes dont l'esprit est constamment occupé de grands projets et qui aime ce qu'il fait. C'est un homme optimiste, c'est un homme bourré d'énergie, Gorbatchev. Il va donc faire cette carrière digne d'éloge dans une Russie soviétique cassée par la guerre, une Russie très grise, il faut bien le dire, au sein d'un parti communiste dont on peut dire également qu'il n'est pas très rafraîchissant. Mikhail va parvenir à la première place. Il est d'abord premier secrétaire dans sa région. Ça, c'est un grand pas vers les échelons supérieurs du parti. En tant que premier secrétaire de la région, il entre au comité central, puis donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au Politburo. Autant vous dire qu'il fait désormais partie du petit cercle qui dirige l'Empire. Et il est de tous, évidemment, le plus jeune. Vous imaginez, autour de lui, Brejnev, Tchernenko, Gromyko, Ustinov, tous ces gens-là. Il est évidemment le Benjamin, il va le rester. Et lorsqu'il est propulsé le 11 mars 1985, donc à la tête du parti, il est toujours le Benjamin, il a 54 ans. On ne l'a choisi que parce qu'il est l'homme jugé universellement comme le plus capable de tous, le plus apte à moderniser le parti, dont chacun, y compris les plus conservateurs au sein du Politburo, sont bien conscients qu'il était temps de renouveler un peu les cadres, et peut-être subsidiairement le plus apte à réformer l'Union soviétique elle-même. Enfin ça, c'est évidemment une autre histoire. Certains ne sont pas dupes. Voilà ce que dit Gromyko, notamment au moment de la nomination du nouveau secrétaire. Notre nouveau secrétaire général a un beau sourire, mais ce sourire cache des dents d'acier. Est-ce que Gromyko voit dans ses dents d'acier un gage de réussite pour l'avenir ou un motif d'inquiétude? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que le successeur de Staline, de Khrushchev, de Brejnev va se distinguer par sa modernité, il faut bien le dire. Il est tout à fait convaincu qu'on ne peut plus continuer sur le mode qui sévit en Russie depuis maintenant plusieurs décennies. Khrushchev avait eu le même sentiment, il ne faut pas l'oublier. Étant jeune, Khrushchev avait eu le désir de changer profondément les choses. Il avait, vous le savez, déstalinisé le parti, mais il avait été plus loin, il avait lancé déjà des réformes en Union soviétique, dont il faut bien dire que les trois quarts s'étaient totalement enlisés. Eh bien, à son époque, Gorbatchev va essayer de moderniser les structures et surtout de les ouvrir. Ça, c'est tout à fait nouveau. En faisant cela, il va provoquer, disons-le, une catastrophe, puisque le régime totalitaire qui dépendait d'un seul pouvoir de ce parti communiste ne survivra pas à la purge qui est lancée. Quand on a commencé à ajouter un peu de pluralisme, de liberté d'expression, ça va être la perestroïka, j'y viens dans un instant, eh bien, on a commencé aussi à semer les germes de ce qui allait être un véritable effondrement. Alors, un élément que je n'avais peut-être pas suffisamment pris en compte, mais que le livre de Madame Carrière-Dancos nous permet de remettre à sa juste place, c'est Tchernobyl. Cette catastrophe de Tchernobyl qui a été un épisode très important. En fait, cet épisode montre que la glasnost, l'ouverture, est devenue indispensable. Ça a été vrai en Union soviétique, mais c'est vrai aussi et peut-être surtout sur le plan international, puisque Tchernobyl va montrer qu'il existe une méfiance totale entre soviétiques et occidentaux. Ça, on s'en doutait, mais on a pu en juger et on a vu les conséquences terribles que ça peut avoir. C'est un drame qui oblige à un minimum de transparence, d'échange, de dialogue. J'ai bien employé le mot transparence. On n'est pas très loin de la glasnost de Mikhail Gorbatchev. D'ailleurs, Tchernobyl est en 1986 et la glasnost commence dès 1987. Il faut là encore se remettre dans le contexte d'un pays complètement bloqué, où tout se fait de manière indirecte, où le mensonge règne en maître, où il n'y a pas de vraies statistiques, où les journaux sont intégralement à la solde du parti, bien entendu. Même les cartes routières sont fausses, vous imaginez. On truque les photos, enfin je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la propagande soviétique. Cette glasnost, ça vise d'abord à essayer d'y voir clair, de faire en sorte qu'on ait de vraies cartes, de vrais chiffres, de vrais éléments statistiques. Dans certaines limites, bien entendu, car encore une fois, il ne s'agit pas pour Mikhail Gorbatchev de faire la révolution. Il s'agit de créer un aggiornamento, de réformer un système. Peut-être ne s'est-on pas suffisamment demandé en amont si le système était réformable. Ça, c'est tout le problème. Le deuxième pilier de la réforme Gorbatchev, si je puis dire, c'est la fameuse perestroïka. Ça, c'est la réforme qui vise à ce qu'un pays qui jusqu'alors était paralysé par ce système totalitaire reposant sur la volonté du parti, à ce que ce régime puisse se réformer, puisse aller de l'avant. Il y a une réforme en profondeur, notamment de toutes les structures de production et de tout ce qui regarde l'économie. Et puis, un troisième pilier qu'il faut surtout pas oublier, c'est le rapport à l'étranger, l'ouverture là encore relative vers l'Occident, et la nécessité de mettre fin à une guerre froide qui, Gorbatchev en est convaincu, est en train d'épuiser un empire qui finira mal si on continue à cette course, dans cette course aux armements. Glasnost, perestroïka, ouverture sur l'étranger et fin de la guerre froide. Voilà les trois piliers en quelque sorte d'une politique qui, vous l'aurez compris, n'aura pas du tout, mais alors pas du tout, les résultats escomptés. Bonjour Hélène Carrère-Dancos. Merci infiniment d'être avec nous. Nous allons, grâce à vous, revivre ce moment fascinant, la chute du plus grand empire du XXe siècle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Original du film La vie des autres sur Europe 1, musique de Gabriel Yared. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et historienne de la Russie. Elle est l'auteur de 6 années qui ont changé le monde, 1985-1991, La chute de l'Empire soviétique, paru chez Fayard.
J'ai parlé pour l'instant uniquement de Mikhail Gorbatchev. Il faut bien le dire, votre ouvrage est loin de se cantonner à ce personnage. Nous allons dans un instant parler de l'autre grand personnage, celui qui a été le plus actif peut-être, c'est-à-dire Boris Eltsine, bien entendu. On peut peut-être préciser, Madame Carrère-Dancos, que vous avez très bien connu l'un et l'autre.
Oui, enfin très bien, je les ai connus.
Connu, oui.
J'ai parlé avec eux, et je leur dois beaucoup, parce que je pense que j'ai saisi ce qu'ils voulaient faire. Je dirais qu'ils sont, nous avons l'idée qu'il y en a un qui a détruit l'autre. C'est l'idée qui prévaut au fond dans notre conception de l'histoire.
C'est-à-dire c'est l'idée de Gorbatchev lui-même, en fait. Hein.
Oui, Gorbatchev a toujours dit, après la fin de l'Union soviétique, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'Eltsine voulait s'asseoir dans mon fauteuil. Bon, il y a peut-être une part de vérité, forcément. Eltsine, comme Gorbatchev, que vous avez tellement bien décrit, est un homme qui vient du parti. C'est un homme de la nomenklatura, né dans le système. Et vous avez mis le doigt sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un système qui était déjà là, bien installé. Ils ont le même âge, pratiquement.
Oui.
Mais je crois qu'ils sont complémentaires. Ce qu'ils ont fait, même en se haïssant, car ils se sont haïs, méprisés, mais tout de même, l'un et l'autre ont fait la même chose. En définitive, Gorbatchev, et vous l'avez très bien souligné, a mis tout en cause. Il a mis tout en cause, et vous l'avez dit, pas avec l'idée qu'il allait tout détruire, mais en définitive, tout le système a été ébranlé par lui. Et Boris Eltsine a achevé, et il fallait avoir le courage de le faire, la destruction du système. Il a pris la décision d'y mettre fin.
Alors d'abord, pour ceux qui regardent la période, l'époque Gorbatchev, si je puis dire. J'ai eu la chance, moi, d'être votre élève exactement à ce moment-là. Je me rappelle que vous analysiez, vous décortiquiez ce qui était en train de se passer sous nos yeux. C'était d'ailleurs incroyablement passionnant ce qui se passait en 86, 87, 88. C'était inouï. On avait une vision très claire de ce qui se passait à l'égard de l'extérieur et notamment des États-Unis. C'était un tout petit peu moins clair vis-à-vis de l'intérieur. Les grandes questions qui se posent, d'abord, c'est pourquoi les autres apparatchiks, pourquoi ce système qui vivait fermé sur lui-même, en vase clos, avec des privilèges absolument inouïs, pourquoi ce système a-t-il accepté la potion Gorbatchev ?
Pour deux raisons. D'abord parce que ce système était tellement épuisé. Il faut bien dire que dans ce pays, quand le citoyen soviétique regardait à la tribune de l'anniversaire de la Révolution, le 7 novembre, ses dirigeants, il voyait des momies et une succession de momies. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y en avait un qui mourait, le suivant, les gens se disaient c'est terminé et on avait quelqu'un qui était encore plus momie. Bon, il y avait déjà une sorte de honte profonde de la société devant ce qui se passait. Et je voudrais tout de même rappeler la phrase tout à fait extraordinaire du grand physicien et prix Nobel Sakharov qui avait dit, lorsqu'il a vu Gorbatchev, il a dit « c'est le premier dirigeant dont nous n'avons pas honte ». Bon, ça veut dire quelque chose. Et en un certain sens, probablement, si je le cite, c'est que la classe politique soviétique, qui a fait monter ce jeune homme, mais qui l'a fait monter pour des raisons. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait les stations thermales dans sa mouvance, dans le lieu qu'il administrait. C'est vrai que ses dirigeants ont pu apprécier ce garçon sur le terrain, se sont rendus compte qu'il était bien, qu'il était énergique.
Voilà. Oui.
Et cherchant qui pouvait prendre, ils ont cherché quelqu'un pour enfin le mettre à la tête du pays avec l'idée qu'il fallait faire quelque chose, mais surtout ne pas tuer le système, qu'il fallait tout simplement le moderniser. Et Gorbatchev a été placé là précisément parce qu'on le pensait suffisamment bon soviétique pour pouvoir contrôler ce qu'il allait faire.
Alors ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, parce qu'évidemment nous ne sommes pas habitués à ce genre de contexte, c'est qu'il n'y a pas à cette époque seulement un pays qu'il s'agit d'administrer, comme ce serait le cas dans la quasi-totalité des nations du monde. Il y a un parti essentiel, il y a un pays qui est directement administré par ce parti, et il y a en troisième lieu, ne l'oublions pas, et vous avez été là toujours pour le rappeler, un empire.
Un empire d'ailleurs qui est à deux étages. L'empire intérieur, c'est-à-dire les Russes représentent la moitié de la population, mais les autres sont des peuples qui ne sont pas des Russes et qui se considèrent dans un empire. Donc déjà l'équilibre, et on peut dire...
Interne à l'Union soviétique est un peu délicat déjà.
C'est très délicat, il ne faut pas oublier que la révolution en 1917 avait vu l'empire se décomposer, que c'est Lénine qui l'a reconstruit, et que Khrushchev a été très préoccupé par ce problème. Et puis il y a le second empire, l'empire conquis en 1945 par les chars soviétiques à la faveur de la victoire.
Le bloc de l'Est, oui.
Oui, et qui est ébranlé depuis 1956 et au fond qui cherche sa voie. Donc il y a le sentiment à l'intérieur de la classe soviétique qu'il faut faire quelque chose. D'autant plus, le président Reagan se promène en disant « je vais mettre, avec la course aux étoiles, je vais mettre la Russie, l'Union soviétique à genoux ».
Oui,
et économiquement, c'est pas faux.
Il y a trois personnalités qui vont jouer un rôle absolument décisif en dehors de l'Union soviétique. C'est Madame Thatcher, je l'ai dit, le président Reagan qui va mener une politique un peu de bout de feu, qui va affoler, disons-le, alors parce qu'il ne faut pas oublier l'importance de l'armée rouge, hein, l'importance des militaires en Union soviétique. Et puis un troisième personnage, il ne faut jamais l'oublier, c'est le pape Jean-Paul II également, qui vient semer le trouble au cœur même de l'Empire.
Oui, hein. Et qui, ayant été élu, tout de même, il ne faut pas oublier, il est polonais. La relation entre je dirais, l'Union soviétique, aux yeux des Polonais, c'est la Russie. La Russie historique qui a détruit la Pologne. Et le pape Jean-Paul II dit « n'ayez pas peur ». C'est un mot qui a une portée considérable. Ça s'adresse à tous les citoyens du monde communiste qui sont tout de même installés dans la peur. Vous avez évoqué, je dirais, les grands-pères disparus de Mikhail Gorbatchev et de Raïssa. Il n'y a pratiquement pas une famille soviétique où les gens n'ont pas disparu. On n'en parle pas, vous avez tout à fait raison. Mais néanmoins, c'est dans la conscience qu'on peut à tout moment tomber du sommet du système ou d'une place intermédiaire dans l'enfer des camps. Même si l'enfer des camps est moins visible, on est plus sous Staline, Khrushchev a apporté un certain changement, mais le système reste le système de la peur.
Il existe toujours, il ne faut pas l'oublier.
Absolument. Hein. Et ce qui caractérise ce Gorbatchev, mais c'est une personnalité très intéressante, parce qu'en effet, il a été un fonctionnaire parfait. Tout de même, il a allé à l'université de Moscou. Il n'est pas allé dans une université de troisième zone. L'université de Moscou, c'est la plus prestigieuse avec celle de ce qui s'appelle à l'époque Leningrad, de toute l'Union soviétique. C'est là que sont les grands professeurs, même si l'enseignement y est, je dirais, contrôlé. Et s'il y est allé alors qu'il avait deux grands-pères réprimés, je veux dire, dans la biographie qui vous permet d'accéder à l'université, ça prouve qu'il avait su, il n'a pas pu le cacher parce qu'on ne pouvait rien cacher, ça prouve qu'il a su montrer un degré de fidélité au système.
Peut-être qui a, supérieur encore à celui de ses camarades.
Qui a inspiré confiance, ça c'est tout à fait évident. En même temps, même quand il était à l'université de Moscou, on le sait, il avait, vous avez évoqué Raïssa et elle compte beaucoup là-dedans, ces deux jeunes gens fréquentaient d'autres jeunes gens qui étaient parfois des étrangers, mais du camp socialiste, qui étaient des esprits ouverts. On échangeait des livres qu'on ne devait pas lire. On échangeait les poèmes d'Anna Akhmatova. On échangeait, je dirais, du Solzhenitsyn. On échangeait des choses. Solzhenitsyn a tout de même été publié sous Khrushchev. Il ne faut pas l'oublier. C'est par la volonté de Khrushchev. Tout ça a été redevenu après Khrushchev était redevenu.
Brejnev, on était revenu
absolument,
dans la glaciation.
Tout était figé. Or, je dirais que ces jeunes gens étaient tout de même des esprits libres, tout en ayant une apparence de grande orthodoxie. Et c'est vrai que Gorbatchev est un personnage qui tout de même était d'une grande lucidité. Et ce qui est important, c'est qu'au fond, on l'a mis en place pour améliorer le système, pour le rendre capable de se défendre. Et au début, quand il arrive, il ne paraît pas vouloir tout casser. Au contraire, je dirais qu'il est dans la première année, il tient un discours, il y a eu un congrès du Parti communiste dans sa première année de pouvoir. Il tient un discours qui a l'air relativement traditionnel. Bon, le mot perestroïka, comme ça, sort tout d'un coup dans un coin de discours. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose aux yeux des gens. L'essentiel est qu'il dit, d'ailleurs, il a eu un mot terrible à ce moment-là, il dit, il faut accélérer le progrès. Il n'y avait pas de progrès, il y avait une dégringolade dans le pays. Mais c'était de nature à rassurer le parti qu'il a porté au pouvoir.
S'il fallait traduire ces deux termes de glasnost et de perestroïka, quels sont les termes les plus approchants en français, disons ?
Je dirais perestroïka, c'est la reconstruction, voilà. Ça c'est facile. Glasnost, c'est plus compliqué. Nous traduisons ça par la transparence. Je dirais que c'est vraiment faire rendre public ce qui doit l'être. Donner de la voix pour dire les choses. Et ça, c'est très important parce que c'est glasnost, c'est la voix. Et véritablement, c'est dire ce qui doit être dit. Et ça, c'est capital. Et en effet, en très peu de temps, au départ, Gorbatchev ne dit pas grand-chose. La première année, il faut tout de même... Il vient d'arriver au pouvoir, il ne peut pas tout casser. Il a un style nouveau, un style qui étonne, qui fait plaisir. D'abord, il y a une chose, il ne fait pas honte, il est civilisé. En plus, il y a un facteur qui est important. C'est Raïssa. Les dirigeants soviétiques avaient des malheureuses femmes qui étaient cachées dans un coin. Mais on a proclamé l'égalité de la femme en Union soviétique en 1917. Et les pauvres femmes soviétiques étaient des esclaves. Et là, elles ont le sentiment tout d'un coup qu'il existe une image qui peut les valoriser. Et puis alors arrive Tchernobyl, c'est la catastrophe absolue. Et il y a eu un moment de désarroi total en Union soviétique, même chez Gorbatchev. On n'a pas su quoi faire. Et je dirais que les premières réactions étaient des réactions classiques, de « taisons-nous, tout va très bien ». Et puis il a compris qu'on ne pouvait plus. Le problème, si vous voulez, avec Tchernobyl, c'est que la société a compris. Tout simplement parce que les vents avaient poussé les radiations sur le monde occidental. Si j'ose dire, le système soviétique, les responsables ont été pris la main dans le sac de mensonges organisés sur l'affaire Tchernobyl. Et sur le fond, c'est-à-dire sur l'incapacité du système à contrôler ces organisations nucléaires.
Et on sait comment ça se passe dans ce genre de circonstances. On lève un coin du voile et c'est tout le reste
tout
qui apparaît.
Hein,
c'est terrible. C'est un enchaînement qui va finir par aboutir à un délitement, puis à une volonté aussi quand même de retour en arrière. Ce sera le putsch. Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans tendez l'oreille. Ce week-end, Europe 1 vous offre vos vacances. Vous jouez pour un séjour d'une semaine en demi-pension pour deux adultes et deux enfants, entre Cannes et Saint-Tropez, dans la résidence 4 étoiles Vacances Bleu Château de Camiolles. Avec ses bastides au ton chaud, ses lavoirs, ses fontaines, ses oliviers et ses vieux chênes, tel un village, cette résidence vous invite à découvrir l'art de vivre provençal. Plus d'infos sur vacancesbleu.fr. Pour tenter votre chance et peut-être gagner ce superbe séjour, envoyez le cadeau, le code cadeau par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du SMS ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Trois messages pour jouer, alors bonne chance.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, Franck Ferrand.
Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Hélène Carrère-Danskos, auteure de Six années qui ont changé le monde, 1985-1991, la chute de l'Empire soviétique, parue chez Fayard.
À la fin de cette décennie 1980, Madame Carrère-Danskos, on peut dire que l'Union soviétique va très mal. On aurait pu penser que les remèdes de Mikhail Gorbatchev lui apporteraient un vent de fraîcheur et de renouveau. C'est tout le contraire qui se passe. Le pays n'a jamais été dans un tel état, en vérité.
D'abord, il est dans un état matériel épouvantable. Oui, les boutiques sont vides absolument. L'un des collaborateurs de Gorbatchev note quelque part que c'est pire que pendant les années de guerre et les années de famine. Bon, incroyable. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais il y a une désorganisation totale. Et il y a surtout, dans la classe dirigeante va se diviser, il n'y a pas de doute là-dessus, une panique, parce que ce n'est pas seulement la classe dirigeante russe, c'est la classe dirigeante de la périphérie communiste. La politique de Gorbatchev aboutit à... je dirais, à ce que le pouvoir soviétique ferme les yeux sur les modèles de socialisme à visage humain qu'on avait réprimés chez les Tchèques, qu'on avait réprimés chez les Hongrois en 1956. Bon, et chacun poursuit son bonhomme de chemin. C'est-à-dire que le parti, les responsables, la classe politique soviétique se trouvent confrontés d'une part à l'instauration d'un pluralisme que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y avait un parti, les élections étaient des élections où on élisait des dignitaires du parti ou des députés. Il y avait un seul candidat, c'était un communiste. Tout d'un coup, on élit un congrès des députés du peuple, c'est-à-dire des gens qui ne sont... le parti ne contrôle plus. Et ce congrès des députés du peuple, à partir de 1986, il y aura quatre congrès des députés du peuple, se décide qu'il est, au fond, presque l'assemblée constituante du pouvoir soviétique. Sakharov réclame la suppression dans la constitution de l'article qui donne le monopole du pouvoir au parti. Enfin, pour le parti, c'est absolument monstrueux qu'on dise.
C'est-à-dire qu'il y a évidemment un certain nombre de hauts responsables du parti et n'oublions pas de hauts responsables de l'armée qui se disent qu'il faut mettre fin à ce délire.
Pour l'armée, c'est un signe de déliquescence que de voir d'abord la périphérie s'écarter complètement du système soviétique. C'est aussi un problème de voir que les décisions ne sont plus prises au sein du parti, mais que toutes les décisions sont débattues. Et c'est à ce moment-là que commence... on peut dire que Gorbatchev a eu son âge d'or entre 1986, Tchernobyl, et 1988. À partir de 1988, on voit monter la contestation. Alors, c'est ici qu'on voit apparaître ce personnage, parce qu'il n'y a pas que la contestation conservatrice, mais il y a la contestation de Boris Eltsine. Alors, c'est aussi très intéressant, parce que Boris Eltsine a été appelé à Moscou, il était dans son Oural, où il était responsable du parti, et Gorbatchev l'appelle sur des recommandations. On lui dit qu'il faut prendre cet Eltsine, il le fait venir. Au départ, on lui confie des fonctions importantes, mais parce que c'est un spécialiste des problèmes de construction, des problèmes industriels. Et puis tout d'un coup, cet Eltsine se révèle dès 1987 un personnage très inquiétant.
Inquiétant pour Gorbatchev ?
Oui, absolument, car c'est un homme de terrain. Il veut voir ce qui se passe. Et là aussi, ce qui est très intéressant dans cette période, il y a une femme qui a joué un rôle considérable. C'est la femme de Boris Eltsine, qui, contrairement, je dirais, à Raïssa Gorbatchova, mais c'est une femme aussi très pimpante, très agréable. Ce n'est pas le modèle des dames soviétiques. Et Naïna Yeltsina est une femme qui, d'abord, elle ne veut pas de privilèges. Elle veut rester une soviétique normale, quotidienne, et savoir ce qui se passe dans le pays. Et elle envoie son mari dans les magasins, dans les métros, dans les autobus. Il va regarder. Et du coup, il se fait le porte-parole face à Gorbatchev. Dans cette dégradation de la situation du soviétique moyen, de cette situation épouvantable. Il dit, nous, nous avons des privilèges, nous avons des magasins spéciaux.
Il se fait le porte-parole de la population silencieuse. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce qui va lui donner une force. C'est passionnant à découvrir dans votre ouvrage, ça, justement. Oui, mais, c'est qu'il est poussé, il est porté, cet homme-là. Hein.
Et c'est terrible, parce que Gorbatchev était plein de bonne volonté, et tout d'un coup, je dirais, la position qu'on qualifierait de populiste chez nous, mais qui n'est pas populiste, qui est une, tout simplement un attachement à l'homme de base, au soviétique moyen.
Retour au peuple, quoi, tout simplement.
Oui, mais Boris Eltsine a l'air de pousser Gorbatchev dans la catégorie des conservateurs, des privilégiés, et je dirais que l'affrontement va se passer au sein du parti, puisque au sein du parti, Boris Eltsine, dans une grande réunion du parti, dénonce ses privilèges. Bon, il est abattu, le parti ne peut pas supporter ça. Et il va être dégradé, il va quitter sa position. Mais au fond, il est un symbole.
Et est-ce que le fait qu'il ne soit dégradé ne lui donne pas une légitimité supplémentaire?
Oui. Il est le symbole dans ce pays qui, je dirais, où tout est ébranlé, toutes les certitudes. Parce qu'on dit, jamais avant, ça n'aurait été public. Dans les périodes staliniennes, il aurait été accusé tout de suite d'être à la solde des États-Unis ou de je ne sais quel pays, d'être payé par l'étranger. Mais là, il y a un prestige d'Eltsine. Il y a une partie de l'organisation qui se rassemble autour de lui. La population le regarde avec intérêt. Et il contribue à durcir l'image de Gorbatchev, à le délégitimer d'une certaine façon. Et il y a, à partir de 87-88, s'installe dans ce pays qui est en transformation, aussi au-dessus de tout, un duel entre des hommes qui est un duel pour le pouvoir, mais en fait où le glissement s'opère tout simplement par naturellement.
Alors, n'oublions pas qu'à cette période, bien entendu, dans ce que vous définissez tout à l'heure comme la deuxième partie de l'Empire, c'est-à-dire la zone la plus extérieure, c'est le délitement total, c'est la chute du mur de Berlin, bien entendu, ça va être même la réunification allemande. On n'aurait jamais pu imaginer que l'Union soviétique laisse faire une chose pareille. C'est la mise à genoux de tous les armements soviétiques par l'initiative de défense stratégique de Reagan, etc. Enfin, ça va très vite à l'extérieur, si je puis dire.
Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la division de l'Allemagne, c'est le symbole de la victoire soviétique en 1945.
Voilà,
et le symbole de la division de l'Europe. Et ça aussi, c'est quelque chose de totalement inacceptable. D'ailleurs, il faut dire que Gorbatchev n'avait pas imaginé ça. Il a laissé faire vers toute l'Europe de l'Est. Parce que je voudrais ajouter que cette décomposition de l'Europe de l'Est se passe sur la toile de fond d'une agitation nationale à l'intérieur de l'Union soviétique. Nationalités... Tout commence à
décréter. Mais oui.
C'est ce qu'on appelait ça la parade des souverainetés. Dans chaque république de l'Union soviétique, les dirigeants commencent à proclamer qu'ils sont souverains. C'est-à-dire, c'est déjà la marche vers l'indépendance. Ce qui affaiblit considérablement le pouvoir central aussi. Et l'idée déjà de Gorbatchev, qui est très importante, c'est est-ce qu'il ne faut pas sacrifier l'extérieur pour sauver tout de même l'unité de l'Union soviétique? Et ça, on ne l'a pas aperçu. Quand on regardait les choses à cette époque-là de l'extérieur, on ne se rendait pas compte que c'est la totalité de l'Empire soviétique intérieur, du premier empire, qui était en train de s'effondrer et que Gorbatchev devait raisonner en se disant « Est-ce qu'on peut aller aussi taper sur les Tchèques, les Allemands ?» Bon, Gorbatchev avait fait un voyage en Allemagne et Raïssa lui avait dit « C'est très impressionnant, j'ai parlé avec des étudiants, il y a des défilés tout le temps. » Se pose véritablement le problème, est-ce qu'il ne faut pas sacrifier le Second Empire pour sauver le Premier? Bon, il va le sacrifier, mais il n'a pas l'idée tout de même d'accepter la réunification de l'Allemagne. Quand le mur de Berlin tombe, qui pour nous a été, je l'ai dit parce que ça me frappe, c'est le symbole de tout. Alors qu'en réalité, si le mur de Berlin a pu tomber, c'est tout simplement parce que tout était en train d'être changé, qu'à la frontière hongroise-autrichienne, les Hongrois cisaillaient les barbelés pour ouvrir la frontière. Bon, tout était déjà en décomposition.
Vous parliez de ce duel entre ces deux hommes, entre Gorbatchev et Eltsine. Il y a cet épisode étonnant où Eltsine va sauver, si je puis dire, Gorbatchev. C'est le moment de cette espèce de putsch manqué de 1991.
Parce que là, nous arrivons au bout du processus. C'est-à-dire que la légitimité de Gorbatchev va être détruite par ce putsch.
Yanayev, un certain nombre
en
de...
En fait, tout a commencé, le putsch a lieu en août 91, mais au début de l'année 91, Gorbatchev, effrayé par l'état de décomposition de son pays, introduit dans le pouvoir, dans le système de pouvoir, toute une équipe de Joyeux-Drigue, Yanayev, tous ces gens-là, qui sont et adversaire de la politique d'ouverture de la perestroïka, de la glasnost, etc.
C'est presque un peu une démission déjà, qui ne dit pas son nom de la part de Gorbatchev à ce moment-là.
C'est le désarroi devant la décomposition intérieure. Je crois qu'il ne faut pas sous-évaluer l'état de décomposition intérieure. Ne sachant plus à quel sein se vouer, il remet des gens dont il se dit qu'ils seront capables de contrôler le pays au pouvoir, et ces gens vont tranquillement préparer un putsch qui a lieu en août 91. Or, ce putsch, c'est la délégitimation de Gorbatchev doublement. D'abord parce qu'il était en vacances en Crimée à Foros et il est prisonnier, il ne peut communiquer avec personne. Au fond, il compte pour du beurre. C'est un peu ça que les putschistes veulent démontrer. D'ailleurs, ils le disent. Gorbatchev avait accepté dans ses réformes, c'est un point très important, la création d'une vice-présidence. Le vice-président, qui s'appelait Yanaïev, qui a écrit au président Mitterrand pour dire « c'est moi qui incarne le pouvoir », tout d'un coup prend le pouvoir et décrète que Gorbatchev est ou malade, ou empêché, tout ce qu'on veut. En fait, toutes les excuses se cumulent, elles ne sont pas très crédibles. Mais Gorbatchev est hors-jeu. Et il faut bien que quelqu'un réagisse. Et celui qui réagit, c'est Yeltsin, qui vient de rentrer à Moscou et qui, je dirais, par la force des choses, prend la figure du chef de l'opposition, de celui qui défend le pays. Et ça va très loin, puisqu'il a eu envie d'aller chercher personnellement Gorbatchev à Foros, en Crimée. Bon, on l'a empêché parce qu'on lui a dit que c'était extrêmement dangereux. Il a envoyé un avion, il a envoyé ses collaborateurs pour le chercher, pour le récupérer. Et quand Gorbatchev revient, ce qui est tragique, c'est que Gorbatchev, à ce moment-là, je dirais, mais il était désemparé, sa femme a eu un accident de santé, il n'a pas compris ce qui se passait. Il a cru qu'il était redevenu le grand Gorbatchev, le patron. Et il y a eu une confrontation, ça je dirais que c'est une scène qui est digne de Shakespeare. Une confrontation absolument pathétique au sommet du pouvoir, puisque Gorbatchev arrive là et parle comme si tout continuait. Et Yeltsin le contraint, lui dit « vous devez ». Il lui donne un papier, il lui dit « lisez ça ». Et ce qu'il doit lire, c'est la composition du gouvernement des putschistes que Gorbatchev avait mise en place. On peut dire que sous le nez de la télévision, sous le nez du pays entier, parce que tout le pays, tout le pays était suspendu aux télévisions, il a écrasé Gorbatchev. Et ça a été tragique, mais Gorbatchev jusqu'au bout, Gorbatchev, au fond, jusqu'à la fin du mois de décembre, il recevait des délégations étrangères, il communiquait avec les chefs d'État. D'ailleurs, il y a des chefs d'État qui lui sont restés très fidèles. Le François Mitterrand est un de ceux, je dirais, qu'il a le plus encouragé. François Mitterrand a compris la tragédie. Et il a été d'une affection avec lui tout à fait extraordinaire. Alors que le président des États-Unis, il a tout de suite joué la carte Eltsine. Bon, je dirais que l'honneur du président a été
La présidence d'Eltsine et puis ensuite l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine sont également très passionnants. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler avec vous une fois prochaine. Je renvoie nos auditeurs à cette saga, cet extraordinaire épisode shakespearien de l'histoire, pour reprendre votre terme, Hélène Carrère d'Encausse. 6 années qui ont changé le monde, 1985-1991, la chute de l'Empire soviétique, c'est édité chez Fayard. Merci beaucoup, madame.
Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à la question de Julien, posée via notre site internet europe1.fr. Il voudrait connaître l'origine de l'ascenseur.
Évidemment, je pourrais remonter, comme souvent, à l'Antiquité, car il y a eu des ancêtres, si l'on peut dire, de l'ascenseur dans l'Antiquité. Mais le premier vrai ascenseur en France, c'est en 1743 qu'il faut aller le chercher à Versailles. C'est la création de la célèbre chaise volante pour la duchesse de Châteauroux, qui à l'époque est la maîtresse du roi Louis XV, qui habite tout à fait au sommet là-haut dans les attiques du château de Versailles, donc il lui faut plus de 100 marches pour monter chez elle. Pour simplifier sa vie, on va créer cette chaise volante qui ensuite servira à Madame de Pompadour. Mais attention, on est encore avec un système de poulies et de contrepoids et il faut quelqu'un qui manœuvre l'engin et qui fasse fonctionner la chaise, bien entendu. Elle n'est pas encore automatisée. En 1853, c'est-à-dire plus d'un siècle plus tard, c'est Elisha Otis qui va créer l'élévateur moderne grâce au frein parachute qui bloque la cabine en cas de rupture de câble. C'est quand même important en termes de sécurité. Le premier élévateur destiné à des passagers n'est installé à New York qu'en 1857. Et c'est 10 ans plus tard, en 1867, que Léon Hédoux présente à l'exposition universelle de Paris de véritables ascenseurs. C'est la première fois qu'on utilise le mot. Vous voyez que ça n'a pas été la dernière.